Et de Gainsbourg, on passe au think tank Génération Libre que vous représentez ici, Gaspard Koenig. Vous êtes enseignant en philosophie à Sciences Po et vous publiez ce dimanche un rapport important en faveur d'une légalisation du cannabis en France, alors que son usage récréatif est autorisé en Californie depuis le 1er janvier comme dans 7 autres États américains. La France a choisi de poursuivre la méthode répressive, je l'ai dit, en annonçant que les consommateurs de drogue pourraient bientôt être sanctionnés par une amende forfaitaire de 300 euros, ce qui pose tout d'abord un problème. Pourquoi cette tradition, pourquoi cette culture française de la répression en matière de drogue dite douce?
Bon, d'abord, bonjour. La France s'est inscrite dans les années 70 dans un mouvement mondial, puisque tous les pays se sont mis à réprimer le cannabis. Donc nous, notre législation sur le cannabis, elle date de 1970, elle est relativement récente, et elle est relativement en ligne avec ce qui se passait à l'époque dans le reste du monde. Et puis c'est le début de la fameuse guerre contre les drogues aux États-Unis, dont on a vu le résultat désastreux. Et aujourd'hui, il y a quand même une mise en cause très forte, à la fois intellectuelle, légale, pratique, sociologique, politique, de cette prohibition, et beaucoup de pays en reviennent. Alors l'Uruguay a un peu lancé le mouvement sous forme d'une légalisation via un monopole d'État, et puis les États américains ont suivi. Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs ça se passe aux États-Unis beaucoup par référendum populaire, c'est-à-dire que généralement le corps législatif ou le gouvernement local est contre. Au Colorado, où j'étais, où ils ont légalisé, il y avait deux députés à la Chambre des représentants qui étaient favorables.
Et alors, donc, c'est ça
donc
qui
c'est la démocratie directe.
C'est ça qui expliquerait le refus français. C'est-à-dire qu'en fait, les politiques seraient plutôt contre et les citoyens majoritairement pour, selon vous.
C'est un peu là où je voulais en venir. C'est que, en France, on continue dans la veine répressive, puisque ce projet dont vous parlez de rajouter une amende était au début un projet qui avait un intérêt, puisqu'il voulait dépénaliser l'usage du cannabis et le transformer en contravention. Et évidemment, au fur et à mesure de la discussion parlementaire, c'est devenu un projet qui cumule le caractère délictuel qui reste. Donc on pourra toujours faire de la prison, comme ça arrive encore pour consommation simple de cannabis.
Ça arrive encore, vraiment.
Alors c'est rare, puisqu'il y a, comme disent d'ailleurs les auteurs du rapport parlementaire, une dépénalisation de fait, c'est-à-dire grosso modo la police ferme les yeux. Mais des fois il y a des gens qui n'ont pas de chance, qui se trouvent au mauvais endroit au mauvais moment, qui ont affaire à un juge mal luné qui, figurez-vous, a décidé d'appliquer la loi. Et la loi aujourd'hui dit qu'une consommation simple de cannabis peut valoir un an d'emprisonnement et un trafic. Et le trafic, ça commence au moment où je donne la moitié de mon cannabis à un copain. C'est considéré comme du trafic par la loi. Ça vaut jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et vous avez encore des gens qui finissent en prison pour ça. C'est encore une fois, c'est rare, mais ça arrive. Dans le rapport que mon think tank a signé, nous avons un avocat dont c'est le métier, qui fait ça depuis 30 ans, qui défend des gens qui sont poursuivis pénalement pour consommation ou trafic de cannabis, maître Francis Caballero. Et il cite dans ce rapport des exemples de gens qui ont fini réellement derrière les barreaux parce qu'ils faisaient pousser des plantes dans leur jardin ou parce qu'ils partageaient une savonnette avec des copains. Donc ça arrive encore. Ce que je veux dire, c'est que le projet de loi actuel, en combinant le caractère délictuel et l'amende, renforce en fait la répression. Et d'ailleurs, évidemment, une réflexion qui va toujours s'appliquer au même, puisque le bourgeois va toujours pouvoir tranquillement consommer chez lui et se faire livrer de manière confidentielle. Et c'est évidemment le jeune qui traîne dans la cité qui va se faire choper par la police, qui ne va pas améliorer d'ailleurs les rapports entre la police et la population dans ces quartiers. J'en profite pour dire d'ailleurs que 17 millions de Français sont passibles d'un an de prison aujourd'hui, puisqu'on estime à 17 millions le nombre de gens qui ont fumé une fois dans leur vie.
Donc on
continue sur cette voie. Alors même que la réflexion en cours chez nos voisins suisses, espagnols, portugais, néerlandais et autres va plutôt en sens inverse.
Qu'est-ce que vous préconisez dans ces conditions avec le think tank Génération Libre et ce rapport que j'ai présenté comme étant un rapport important aujourd'hui en matière donc de légalisation du cannabis?
Bah écoutez, nous, voilà, on préconise une légalisation totale. Alors, on a d'ailleurs l'honnêteté de faire intervenir un débat à la fin du rapport entre ceux qui souhaitent légaliser sous forme d'un monopole d'État, donc en confiant à la puissance publique le monopole de la distribution, voire de la culture, de la mise en vente du cannabis, et ceux qui, comme moi, préfèrent aller directement dans un marché libre et régulé, tel que c'est le cas aux États-Unis.
Ça veut dire quoi, marché libre ? Ça veut dire que n'importe qui a le droit de cultiver ou d'importer du cannabis, de le vendre, et donc la possibilité pour tous de le consommer ?
Le diable est dans les détails. D'abord, tout marché est régulé. C'est inutile d'opposer ces deux notions. Le marché est toujours né de l'État et né de la régulation. Et c'est, on le voit de manière très concrète au Colorado, donc où je me suis rendu, puisque le régulateur met en place toutes sortes de lois, de normes pour assurer que ce marché du cannabis fonctionne correctement. Et là, effectivement, vous avez plein d'options différentes, notamment sur l'attribution des licences. C'est-à-dire qui a le droit de vendre du cannabis et où ? Est-ce que c'est dans tous les quartiers ? Est-ce que c'est limité ? Est-ce qu'il y a un numerus clausus, etc.
Et alors, qu'est-ce qui se passe justement au Colorado donc, où vous vous êtes rendu ? Vous le relatez d'ailleurs dans votre livre « Voyage d'un philosophe au pays des libertés » aux éditions de l'Observatoire.
Alors, au Colorado, c'est assez simple. Il faut obtenir une licence. Mm-hmm. Il n'y a pas un nombre limité de licences. C'est pas comme les taxis, mais simplement, il faut remplir un certain nombre de conditions et ensuite, il faut s'y tenir.
Lesquelles ?
D'hygiène, de mise en forme du produit, de traçabilité du produit également. Et vous avez des inspections qui sont hyper rigoureuses parce que justement, ils essayent que ça se passe bien. Et donc, les entreprises où je me suis rendu, vous avez des inspecteurs qui arrivent tous les 15 jours pour vérifier que tout est en conformité, qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas de surproduction, etc. Bon. Alors donc, il faut une licence pour l'avoir. Le problème au Colorado, c'est que cette licence excluait ceux qui avaient déjà un casier judiciaire. De sorte qu'en fait, ceux qui souffraient le plus de la prohibition, c'est-à-dire le petit dealer généralement black aux États-Unis, n'est pas celui qui bénéficie le plus de la légalisation. Et quand vous vous rendez, comme je l'ai fait, dans la grande foire un peu annuelle du cannabis, en fait, vous vous retrouvez avec des businessmen, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, qui vous parlent de problèmes d'assurance, de problèmes d'éclairage, de problèmes de finance, de problèmes de problèmes très techniques. C'est devenu un business comme un autre. Alors qu'en Californie, justement, ils ont, et ça c'est hyper progressiste et assez intéressant, et on pourra regarder le retour d'expérience qu'on n'a pas encore, ils ont décidé d'attribuer de manière prioritaire les licences de production et distribution de cannabis à ceux qui avaient déjà été condamnés pour trafic. C'est tout à fait paradoxal, c'est-à-dire le fait d'avoir enfreint la loi vous donne des droits supplémentaires. Mais l'idée derrière ça, c'est d'essayer, ce qui n'a pas été le cas au Colorado, de transformer le petit dealer en entrepreneur rentrant dans le circuit de l'économie formelle classique.
Et alors, bilan comparé de ces deux situations, Gaspard Koenig ?
Ah non, encore une fois, en Californie, ça vient de...
Vous êtes rendu au Colorado, donc vous nous dites que ce sont des businessmen et qu'aujourd'hui, donc on a affaire à finalement un business comme un autre, florissant.
Ah oui, alors le marché d'abord est assez spectaculaire, puisque je crois que maintenant il a atteint $1 milliard. C'est simplement la transformation d'une économie informelle en économie formelle, puisqu'on estime qu'il n'y a pas eu de hausse majeure de la consommation, ni d'ailleurs de hausse, voire plutôt une baisse du taux d'addiction. Puisque les gens, dans un marché légal, ont la possibilité d'aller se faire soigner, j'imagine qu'on en reparlera, s'ils le souhaitent. Donc, on s'aperçoit que c'est... Et donc, comme dans tout marché, vous avez beaucoup d'innovation. Et donc, vous avez des gens qui essayent des nouveaux produits, qui raffinent le cannabis de manière un peu différente ou plus sophistiquée. Donc, vous avez différents prix, différentes qualités, un peu comme pour le vin. Vous avez du cannabis particulièrement raffiné. Vous avez aussi l'usage que moi, je trouve très intéressant et moderne de la vape. C'est-à-dire que vous pouvez vapoter votre cannabis, ce qui fait que ce qui élimine ce qui est resté des effets cancérigènes, puisque dans ces cas-là, vous n'avez plus de nicotine et vous ne brûlez plus rien. Donc vous avez simplement une huile de cannabis extrêmement concentrée à 80% de THC et vous réglez vous-même votre dosage d'intensité. Vous avez une petite lumière, vert pour faible, rouge pour intense, orange au milieu. Et donc c'est vous qui auto-régulez votre consommation. Et ce qui est intéressant, c'est que justement le régulateur a fait en sorte que pour ce qui est de ce qu'ils appellent les edibles, c'est-à-dire tout ce qui se consomme, qui est à base de cannabis, qu'on appelle un peu les space cakes en France.
Je vais essayer de traduire ça, les gâteaux de l'espace.
Ouais, les gâteaux de l'espace, qui constituent 50% du marché, donc ça c'est important, et qui pose un autre problème, puisque quand vous consommez ça, l'effet est retardé. puisqu'il faut le temps de la digestion. Et donc, du coup, vous avez des gens qui en prennent, qui disent qu'il ne se passe rien, qui en reprennent, et puis au bout
de 3 heures,
au
moment de la sieste.
Ils explosent. Voilà. Alors, sachant qu'il n'y a pas d'overdose sur le cannabis, ces gens peuvent être dans de sales états.
Mais il peut y avoir des indigestions avec les gâteaux.
Il peut y avoir des indigestions, en effet. Et donc, le régulateur, et là, c'est là qu'il est dans son rôle de régulateur. Et je dis ça parce que ça explique bien quel peut être le rôle de l'État dans un marché libre. Le régulateur a dit, bon, bah, maintenant, ce qu'on va vous obliger à faire, c'est à décomposer votre produit en portions contenant 1 mg de cannabis, de sorte que vous savez que telle part de gâteau équivaut à tel petit verre de boisson fruitée, équivaut à tel bonbon, et donc vous pouvez vous auto-réguler.
Mais alors, il y a quand même une conséquence lorsqu'on fait en sorte un trafic, puisque aujourd'hui, lorsqu'il y a répression et prohibition, la vente de drogue est un trafic. Lorsqu'il y a passage d'une économie souterraine à une économie légale, on a évidemment une diminution des taux de marge. J'imagine que le produit est beaucoup moins cher. Il vaut mieux acheter du cannabis dans le Colorado qu'en France où ce produit est interdit. Ce qui veut dire que finalement, la richesse des trafiquants d'hier, elle se transpose pas complètement sur les businessmen d'aujourd'hui.
Vas-y, parce que d'un autre côté, comme le marché est formel, légal, eh bien, vous avez la possibilité de l'étendre. La consommation, elle va prendre d'autres formes.
Si vous avez l'extension de la consommation, dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez plus de personnes qui utilisent du cannabis. Et c'est là où on en vient aux critiques éventuelles de cette légalisation.
Il ne faut pas confondre la diversification de la consommation et l'augmentation de l'addiction. Et je pense qu'il est vraiment important de distinguer les deux. Vous avez plutôt une baisse de l'addiction, mais vous avez une diversification de la consommation. Ce qui veut dire que, par exemple, vous avez maintenant des crèmes au cannabis qui permettent de relaxer les muscles, que les danseuses utilisent avant d'entrer en scène parce que ça leur permet de relaxer leurs muscles. Vous avez des gens qui sont des gens, comme tout un chacun, qui prennent ça pour s'endormir, parce que finalement, ils estiment que c'est beaucoup plus, quand ils ont des problèmes de sommeil, que c'est beaucoup plus sain que d'avoir des... comment on appelle ça pour s'endormir
On peut utiliser des somnifères ou différentes autres molécules. Mais...
Voilà, exactement. Donc, si vous voulez, chacun peut en faire un usage tout à fait raisonné en fonction de ses besoins, qui est très loin de l'image qu'on peut avoir de l'addict.
Mais sur la culture française, parce qu'il y a quand même un paradoxe dans notre pays, Gaspard Koenig, c'est que l'alcool qui peut provoquer un certain nombre d'états est en vente libre, avec une culture qui est même promue, puisqu'on considère que le vin, en tout cas pour une partie de la production, est une production noble, tandis que l'on flétrit la consommation de drogue. Comment vous expliquez cela, vous qui êtes philosophe?
En fait, on ne sait pas très bien définir ce qu'est une drogue. Est-ce que c'est l'addiction? Est-ce que c'est la dangerosité? Et quand on commence à rentrer dans la définition, y compris d'ailleurs avec des addictologues, on s'aperçoit qu'elle est extrêmement compliquée à trouver. Quand vous prenez simplement la notion de taux d'addiction, par exemple, c'est-à-dire d'effet addictif d'un produit, vous apercevez que le cannabis est considéré par les médecins, et c'est ce qu'on met dans notre rapport, puisqu'on a aussi travaillé avec un addictologue, est considéré comme moins addictif que, alors l'alcool, ça c'est sûr, mais également le tabac, voire même la caféine. Moi, par exemple, j'ai arrêté le café en décembre pour voir, et effectivement, j'ai eu mal à la tête pendant 15 jours, et je me suis aperçu qu'il y avait une addiction. Le sucre peut être considéré comme une addiction. Le téléphone portable que vous consultez toutes les 3 minutes, il y a des articles maintenant des travaux américains qui expliquent que c'est exactement les mêmes mécanismes neurologiques que pour l'addiction. Donc ce que je veux dire, c'est que la définition de l'addiction, elle est moins scientifique et médicale que culturelle. Et on considère dans certaines cultures quelqu'un comme un drogué parce qu'il a bu un verre d'alcool, et dans d'autres parce qu'il a fumé un joint, mais ça dépend de la culture, mais pas tellement de la nature du produit. Et effectivement, plus vous considérez un produit comme une drogue, plus vous le transformez en drogue, plus les gens vont l'utiliser comme une drogue. Et plus au contraire.
C'est la législation qui crée la drogue, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Exactement. Enfin, la législation ou l'environnement social. Et en revanche, plus vous le légalisez, plus vous le normalisez, plus au contraire vous allez pouvoir en faire un usage raisonné et personnalisé.
Gaspard Koenig, Voyage d'un philosophe au pays des libertés. Et la liberté que vous tentez de promouvoir en ce moment, Gaspard Koenig, c'est celle de pouvoir consommer en France du cannabis, une mesure révolutionnaire dans un seul pays, parce que beaucoup d'autres pays l'ont aujourd'hui accepté. Et on retrouvera Bertrand Lebeau-Lebovici, qui est médecin addictologue, pour voir aussi quelles sont les conséquences de la consommation d'autres drogues, avec par exemple les opioïdes, qui aujourd'hui aux États-Unis représentent une véritable épidémie. Est-ce qu'on peut substituer une drogue à une autre? Et puis vous retrouverez vos rubriques traditionnelles, et notamment le billet politique de Frédéric Saïd dans quelques instants. Restez avec nous, il est 8h sur France Culture.